Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM. Souvenir
FM. Bonjour à toutes et à tous, c'est le moment de votre émission préférée, l'invité du 12-13, un moment privilégié d'échange et de découverte des acteurs locaux, ceux qui font vivre votre territoire au quotidien. Aujourd'hui, nous accueillons Solicat, le groupe de théâtre d'improvisation. Alors, nous avons Rachid Falaki, qui est membre de l'association pour l'instant.
Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour. Et on attend du monde qui arrive, parce que c'est ça, quand on vit dans une mégapole, il y a les embouteillages terribles. Donc on attend Maxime Bladet et Anne-Lucie Grinin qui vont nous prendre en chemin. Mais comme je disais, on est là pour parler d'improvisation.
Absolument.
Et la vie, c'est aussi de l'improvisation, bien souvent. On va passer donc une petite heure ensemble, on va parler un petit peu de ce que vous faites, et puis de qu'est-ce que c'est en fait, hein, parce que des fois on a des idées préconçues sur les choses sans savoir exactement ce qu'elles sont et comment elles fonctionnent.
Ouais.
Mais tout d'abord, on va écouter le Flash Info national et international, et on se retrouve tout de suite après. Voilà, alors Rachid, si vous voulez bien vous prêter à une tradition, c'est qu'on aime bien avoir des petites infos personnelles sur les gens, ce que j'appelle la trajectoire, hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans la vie, qu'est-ce qui fait que maintenant ils sont devant moi à ce micro.
MP. Intéressant. Alors, je m'appelle Rachid. Je suis né à Marseille en 1975.
C'est précis.
Voilà, moins comme ça. On ne me demandera pas mon âge, on n'a qu'à faire du calcul mental, ça va très très bien.
Mm-hmm.
Et qu'est-ce qui m'a amené dans la région? Ce sont des choix qu'on fait, des choix de vie. Au bout d'un moment, on se dit, tiens, je prends une autre trajectoire que celle qui est tracée et qui est la plus facile à suivre. Et de celle-ci découlent plein de choses, des rencontres, et notamment le théâtre et le théâtre d'improvisation, en particulier, ce qui fait que je suis devant ton micro.
D'accord, alors ça fait combien de temps que vous faites de l'improvisation?
Alors, moi j'en fais depuis 6 ans, donc je suis néophyte de manière générale, même si voilà, j'ai quand même un petit peu roulé, j'ai fait 2 compagnies, une à Bayonne, à la Luna Negra, où j'ai fait une année, qui était intéressante, et quand les Solicat, à l'été 2020, ont monté l'association sur Cap-Breton, pour moi c'était l'évidence,
oui.
Et la structuration de l'association, du coaching, avec Laetitia qui est notre coach, et Maxime, qui sera là d'un instant à l'autre.
Oui, ils vont nous parler de tout ça tout à l'heure.
A fait que j'ai énormément progressé,
voilà.
Il me reste beaucoup à apprendre, mais ça a été, en tout cas, c'est un super projet, ça a été une très très belle rencontre.
Très bien. Bah alors, du coup, on va parler un petit peu de Solicat. Donc, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une troupe, une compagnie de théâtre, d'improvisation?
Absolument. Les Solicat sont une troupe d'improvisation théâtrale. Donc, les Solicat, c'est acolyte d'improvisation. Voilà, si on mélange un petit peu les lettres, on comprend pourquoi la troupe porte ce nom-là.
Oui.
Et elle a décidé de créer cette association à une période où il y avait de la demande, mais où aucune association réellement n'existait d'improvisation théâtrale sur Cap-Breton.
Oui.
Avec la communication qui va bien, le coaching qui est très, très, très performant et très efficace. Et voilà, l'envie de créer quelque chose d'une dynamique et enfin de donner au spectacle vivant ses lettres de noblesse dans l'improvisation sur Cap-Breton et aux alentours, évidemment, puisqu'il nous est arrivé de jouer dans plein de petits lieux et d'autres villes.
Oui, donc je crois que ça a commencé en juillet 2020, c'était une période particulière, ça, quand même. Quelle idée,
hein. Oui, on s'était dit pourquoi pas,
ouais.
Hein, voilà.
Parce que là, on sortait du confinement, c'était une période encore un peu particulière au niveau des spectacles.
Oui.
Je dis ça parce que chaque artiste ou chaque association que je reçois, il y a toujours un avant et un après. Et un pendant, hein, ce fameux confinement, c'est toujours un sujet...
Les événements, oui.
Oui, non, oui.
Ça a été compliqué puisque les ateliers se sont arrêtés durant un long moment. Il y a eu des tentatives d'ateliers en visio, ce qui est très compliqué en termes d'énergie et de cohérence avec le spectacle vivant. Mais ça permettait d'avoir une continuité dans l'apprentissage et dans le fait de rester connecté. Et ça permettait à ceux qui ne travaillaient pas, parce que certains ont pu continuer des activités qui étaient primordiales, et d'autres dont je faisais partie étaient bloqués à la maison, donc ça permettait d'avoir quand même une petite fenêtre culturelle et de partage. Ça a été compliqué, et les spectacles aussi ont été...
Le monde du spectacle était durement touché par cette période.
Très très durement touché.
Ouais.
Donc il a fallu faire des jauges, il a fallu faire porter des masques, il a fallu faire tout un tas de choses qui cassaient un petit peu cette spontanéité et ce côté proximité, mais c'est loin derrière maintenant.
Bon, c'est vrai que j'ai tendance toujours un petit peu à parler de ça avec les gens, parce que Moi, personnellement, je trouve que c'est un moment passionnant qu'on a eu la chance de vivre, on va dire, pour certains, que sociologiquement et même historiquement, quand on sera vieux, à nos petits-enfants, on pourra dire « Ah, oh, mais j'ai connu le confinement de 2020 et... »
Et on n'avait pas de pied-à-pied de toilette.
Non, non, mais par contre, heureusement qu'on avait Internet.
Heureusement qu'il y avait
Quand même, franchement, là, pour ceux qui l'ont eu, enfin, il y a des nantis, hein, genre des Français, etc., il y a des pays où ça a pas été la même, hein, quand même.
Oui, ça a été durement, durement vécu parce que nous, on a... On est un petit peu insolent, voilà. On est en France, on a quand même un petit côté, on y va quand même. On fait une petite attestation, voilà, on monte un petit bobard et on a quand même réussi à faire nos courses, à promener des chiens qu'on n'avait pas.
Oui. C'était un moment un peu space, un peu bizarre, voilà.
Ben, je pense que ça a été... alors, on en est sorti, je pense que la société en est sortie différente. Après, c'est mon
Tout
point
à fait,
de vue.
Ça c'est sûr.
Il y a eu un avant et un après.
Oui, oui.
En revanche, est-ce que ça a été un bien ou pas? Je suis pas à même de juger, mais j'ai l'impression que ça a pas été forcément par la suite. On a pas retenu les leçons.
Il y a une fracture. Il y a une fracture.
Effectivement.
Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est en fait le théâtre d'improvisation? Voilà, sans chercher une définition wikipédiesque exacte.
Alors, le théâtre d'improvisation, ça consiste à improviser. Improviser, c'est faire face à l'imprévu. Mmh. C'est-à-dire, c'est se mettre en danger tout en étant préparé, puisque les ateliers, le coaching et tout ce qu'on fait avant le spectacle. Avant la scène, permet de donner un résultat qui est fluide, qui peut réussir, qui peut échouer. Mais le public, de toute manière, quand il vient voir ce spectacle-là, il ne vient, vient pas voir une pièce de théâtre.
Oui,
il sait très bien qu'il va voir 2, 3, 4, 5, 10 personnes improviser, faire des choses qui n'étaient pas prévues. Et la base de l'improvisation, c'est faire face à l'imprévu. Mais on n'est pas seul.
Oui.
On peut être, comme je vous dis, 2, 3.
C'est un travail d'équipe.
Et, c'est un travail d'équipe. Et je pense que c'est quand on... commence un petit peu à dégrossir notre faculté à improviser et à être seul dans notre cerveau, il faut après se tourner vers les autres et se dire qu'on n'est pas seul.
Le public d'ailleurs fait partie des partenaires.
Le public a son importance. Oui. Le public, déjà en termes de présence et d'énergie, moi je les remercie toujours lorsque je suis amené à être maître de cérémonie d'un spectacle. Je remercie toujours le public de maintenir ce lien avec le spectacle vivant, c'est très très important. Et le public participe aussi parce qu'on leur demande par moment des thèmes, on leur demande à la volée
des
mots, des objets, et ils participent.
Ouais, ouais.
Ça permet aussi de favoriser l'idée auprès du public que c'est quand même improvisé, parce que je trouve ça génial, même moi en tant que
c'est
spectateur.
C'est la preuve même. Tiens, on a la preuve que c'est improvisé, puisqu'on vous demande votre avis.
Voilà, exactement. Ouais. Et on est content d'utiliser leurs éléments, leurs lieux, leurs thèmes. Et que c'est... ou même des anecdotes. Ça peut nous arriver de demander des anecdotes de manière anonyme et de les jouer.
Se fait dans les one-man shows d'ailleurs, il y a beaucoup de comiques maintenant, ça se fait beaucoup plus, c'est peut-être une école on va dire, mais beaucoup de comiques qui font ça en fait, qui interagissent directement avec le public, bon souvent ils les vannent un peu, ça fait partie, fait partie du jeu, mais c'est vrai qu'il y a cette interaction qui à une époque peut-être était, on va dire le théâtre classique, c'était interdit. Hein,
le quatrième mur était solide.
Voilà, c'est ça, et alors que maintenant en fait c'est vrai que ce sont des pratiques qui se généralisent plus, cette interaction avec le public.
Oui. Oui. Alors les humoristes, les stand-uppers, les one-man shows, c'est un peu plus délicat parce que là, c'est vraiment du freestyle, même s'ils ont quand même l'expérience, ils savent rebondir, ils ont beaucoup de spontanéité et de répondants. Mais voilà, il y a toujours une notion de risque de tomber. Mais c'est vrai que sur les vidéos qu'on voit, et beaucoup d'artistes font leurs promos, font leurs vidéos, leurs réels, avec ces interactions publiques, où on tombe sur des pépites. Et il faut avoir après le répondant, il faut pouvoir après exploiter cette information.
C'est vrai, oui. Alors moi, j'avais donné une définition personnelle hors antenne. On en a discuté, c'est que j'allais dire que c'était du vrai spectacle vivant. Voilà.
Oh là là. Oh, les théâtres ne vont pas aimer.
Ah non, mais c'est le côté que ce soit tellement... c'est pas figé, c'est pas préparé, c'est interactif, c'est organique. Quoi,
Pense que même... Absolument. Je pense qu'organique fait partie des termes qu'on utilise dans la spontanéité, dans l'improvisation, dans le corporel. Mais je dirais que c'est une discipline différente. Alors, elle vient pas en concurrence avec le théâtre.
Non, c'est pas la même chose.
Au contraire, il y a même dans le théâtre classique, pour en avoir fait très peu, des trous de mémoire, des erreurs, des langues qui fourchent.
Des improvisations, il y en a qui se lancent dans une petite impro des fois.
Oui, voilà.
Des blagues.
Ou des petites blagues, ou pour faire un petit peu, pour faire décrocher le collègue. Mais le texte a cet avantage, c'est que c'est notre ligne de vie sur le théâtre classique.
Ouais.
Et dans l'improvisation, on ne l'a pas. Mais on a tout un tas d'autres techniques, d'autres cordes qui nous permettent de ne jamais être dans la panade, y compris quand... l'avantage, c'est qu'on n'a pas de texte à apprendre.
Oui.
C'est l'écoute, c'est se tromper de prénom. Alors si je vous appelle Gustave au début et qu'après je vous appelle Émile, vous allez jouer de cette petite erreur.
Tout à fait,
et le public va adorer parce qu'il va se dire yes, c'est ce truc qu'on veut pas de truc qui soit parfait.
Ouais, c'est ça,
pour
oui.
finir l'échec. Quoi.
Tout à fait. Alors, c'est quoi le plus difficile en tant que comédien d'improvisation? Qu'est-ce qui vous semble le plus difficile?
Alors, je parle en ce qui me concerne, oui, parce oui, qu'on a tout à fait, tous oui. des points de vue différents, on a tous des vécus et des ressentis différents. Pour moi, c'est le plus important, c'est le lâcher prise. Mmh. Lâcher prise, alors je vais faire une espèce de... Voilà, je vais faire de la psychologie de comptoir. Je pense que dans la société dans laquelle on vit, c'est très très difficile de monter sur scène et de faire le con, tout simplement. Mmh. Soit on en a envie et que c'est un réel besoin d'être... Voilà, moi, si j'ai envie de monter sur scène et d'être un cow-boy avec un pistolet dans un saloon, dans l'improvisation, c'est possible de le faire. Mais il faut y aller franchement, il faut y croire, il faut y aller les deux pieds, il faut aller les deux pieds, il faut vraiment rentrer dans son
personnage. Les enfants sont très forts pour ça en fait, c'est une chose qu'on perd peut-être en grandissant, non ?
J'allais continuer là-dessus, c'est exactement la théorie que je répétais dès le départ, c'est que moi ça me rappelle la cour d'école, où à la récréation on pouvait être ce qu'on voulait, des monstres, des méchants, des gentils, des sorcières, et que ce monde, cet univers, cette créativité, cette imagination, petit à petit elle ne disparaît pas. Mais elle est mise en sommeil, elle est mise en sommeil.
Elle est bridée par la société,
mais
la
elle
culture.
Est complètement par l'apparence, par il faut être propre sur soi. Est-ce que vous allez bien? Je vais bien, bien sûr que je vais bien. Oui. Alors, si ça se trouve, il y a un univers à découvrir qui peut être intéressant, mais on n'a pas le temps.
C'est vrai.
Et l'impro, au début, l'improvisation théâtrale m'a permis. Après, il faut canaliser les énergies, écouter l'autre. Et c'est vrai que j'avais cette espèce de vanne qui s'était ouverte, d'imagination, de créativité, et ça pouvait m'arriver d'écraser les autres parce que j'avais envie d'y aller à 200 à l'heure.
Très bien.
Et voilà. Et je trouve que j'ai vraiment retrouvé cette espèce d'esprit de cour d'école où je peux être un cow-boy, je peux être une sorcière, je peux être un shérif.
Très bien. Bah, quelle chance. On va faire notre première pause et on va peut-être retrouver nos autres invités qui sont, je pense, arrivés. On se retrouve tout de suite. Et nous voilà de retour après cette pause. Eh bien, le Solicat n'est plus solo. C'est plus Solocat, c'est Solicat, puisque Maxime et Anne-Lucie nous ont rejoints. Comme je disais, les embouteillages dans les grandes villes, c'est toujours problématique. Alors, bienvenue Maxime et Anne-Lucie, pour nous faire une petite présentation personnelle rapidos.
Bonjour, donc moi je suis Maxime. Alors moi je suis comédien improvisateur et puis formateur aussi en théâtre d'improvisation et en prise de parole en public notamment, enfin principalement. Et je suis un des cofondateurs de Solicat.
D'accord.
Donc moi c'est Anne-Lucie, je suis graphiste, donc j'ai une formation de communication visuelle. Et je travaille en Gironde, au département de la Gironde.
D'accord.
À la communication. Et je gère aussi la communication du coup de l'association. Ça me tenait à cœur de donner une image, de coller une certaine image au théâtre d'improvisation.
Les visuels sont magnifiques.
Oui. D'ailleurs, on peut bien les apprécier en ce moment à la radio.
Ah oui, les visuels. Oui, là, vous voyez. C'est très radiophonique et la communication visuelle.
Oui.
Très, très radiophonique. Voilà.
Ok, très bien. Merci d'être venu. On va parler une ou deux minutes ensemble avant la prochaine pause et pendant plus d'occasions d'apprendre des choses. Oui, donc on a discuté avec Rachid sur la définition du théâtre d'improvisation. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous avez une définition personnelle rapidement qui peut nous éclairer sur votre manière de voir les choses?
Moi, j'ai une définition. Le théâtre d'improvisation, en tout cas de mon point de vue, c'est une discipline déjà de groupe.
Oui.
La première fois que j'en ai fait, j'ai réalisé que c'était pas du tout trouver des idées, le théâtre d'improvisation, mais écouter les autres. Je me suis rendu compte que je n'écoutais pas. Et quand je dis écouter, c'est pas que les mots, mais c'était l'intention, le fait que quelqu'un allait me parler, la position de l'autre.
Le langage corporel est intéressant,
exactement.
Est important. Oui.
Et en fait, j'étais complètement bloquée dans ma tête en me disant « vite, une idée !» Et le plus difficile, c'était vraiment l'écoute de l'autre et des autres sur scène. Et du coup, j'ai l'impression que ça fait profiter la vie de tous les jours.
Oui, c'est ça. Oui, c'est un côté pédagogique, on va dire, ou curatif, parce qu'il faut toujours tout soigner. Mais c'est vrai que ça apprend des choses, en tout cas.
Oui, tout à fait. Ouais. Et puis, l'écoute, en fait, c'est qu'on se rend compte qu'en général, on chope que la moitié de l'information qu'on nous donne, et plus on la développe, plus on sent qu'il y a une reconnaissance aussi de l'autre inconscient qui se dit « Ah ben, on m'écoute vraiment, c'est chouette. »
Ouais. Ça fait partie du métier de la radio, cette écoute. Bon, alors, par contre, c'est déjà le moment de notre première pause, ça va très vite, évidemment, mais on se retrouve tout de suite après parce que vous avez plein de choses à nous raconter, à tout de suite. Et nous voilà de retour avec nos invités. Donc, on a pas mal discuté hors antenne, donc c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à dire, donc c'est... comment dire, quelles sont vraiment les qualités qu'il faut développer ou qui se développent en faisant du théâtre d'improvisation? Je me tourne un peu vers le coach parce que c'est un peu son travail de peut-être de les développer, ou de les dévoiler peut-être. C'est peut-être le meilleur mot, je sais pas.
Bah, les trois qualités, enfin compétences, on va dire principales. Mm-hmm. Donc il y a le lâcher prise. Rachid en a déjà parlé. Mmh. Il y a la confiance dans les autres, dans ses partenaires. Il faut se faire confiance puisqu'on n'a pas de filet quand on se lance. Mmh. Et donc, il faut faire confiance à l'autre. Il arrivera à nous donner de quoi nous-mêmes nourrir notre jeu. Mmh. Et la troisième, et non des moindres, c'est l'écoute. Alors, quand je dis l'écoute, c'est une vraie écoute active qui va au-delà même du verbal, qui est aussi dans l'écoute du non-verbal de l'autre. Oui. Plutôt du ressort du ressenti. Donc on est vraiment voilà, confiance, écoute et lâcher prise, c'est vraiment ces trois compétences là.
D'accord. Alors moi j'avais une question aussi un peu personnelle, c'était est-ce que ça s'entraîne comme un muscle, cette capacité à rebondir de manière rapide, est-ce que ça se développe avec l'entraînement?
C'est un mécanisme. L'écoute, c'est un mécanisme. Mm-hmm. C'est comme la conduite, c'est-à-dire qu'au début, sur les premières heures de conduite, on panique, on oublie plein de choses, on sait pas comment faire. Mmh. Et plus ça va, plus on est à l'aise et plus on peut faire plusieurs choses à la fois. Donc c'est vraiment des mécanismes et c'est ce qu'on bosse en atelier. Mmh. Finalement, on ne travaille que des mécanismes, encore et encore et encore, jusqu'à ce qu'ils deviennent instinctifs.
D'accord, ouais. Ouais, je vais utiliser le langage France Travail, ce sont des compétences transférables. Quand même dans la vie courante, parce que voilà, ça sert aussi dans la vie de tous les jours de développer cet aspect de la communication, de la vie.
Complètement, oui, complètement. Puis en plus, on improvise dans la vie de tous les jours, on improvise tous les jours.
Et oui.
On est en total impro tous les jours.
Souvent, ça m'arrive, effectivement. Oui, alors donc, vous fonctionnez comment? Alors vous avez vous vous retrouvez tous les combien, quel rythme, quelle durée pour travailler, pour bosser, vous entraîner, puisqu'on va peut-être parler d'entraînement.
Les ateliers sont hebdomadaires.
Oui.
À Lucie.
Oui, tout à fait. Et
je vous remercie.
C'est souvent, ouais. Mais non, mais avec plaisir. C'est souvent nécessaire pour rester en connexion avec le groupe. Parce que si on se voyait moins, en fait, il faut refaire un travail de. Vous voyez, comme quand on est petit et qu'il y a les grandes vacances qui passent et à la rentrée, on a l'impression qu'on doit redevenir ami avec ses amis.
Oui.
Bah, c'est un peu pareil. Du coup, c'est pour ça qu'on se voit régulièrement pour garder la connexion.
Mm-hmm. Il y a différents ateliers, les ateliers hebdomadaires.
Mm. Oui.
Donc c'est là, c'est on va dire le groupe principal qui se produit sur scène, qui fait les spectacles. Mm-hmm. Et il y a aussi, après Max en parlera, il y a les ateliers mensuels, et puis voilà d'autres qui sont plus spécifiques, soit en perfectionnement, soit en initiation ou en découverte. Donc principalement, voilà, si on veut acquérir les mécanismes dont on parlait, ce sont des ateliers hebdomadaires.
Mmh. Alors, je crois aussi, vous avez un rendez-vous mensuel. Moi, je vous ai déjà vu au Circus. Hein, c'est un endroit, je crois, Circus. Que je dis ça parce qu'il faut que les gens, à un moment donné, vont avoir envie de vous voir, forcément.
C'est le fief.
Hein, donc, c'est quand même à dire comment est-ce qu'on peut vous retrouver, à quels endroits et à quel rythme on peut vous voir. Hein. Donc, c'est tous les mois au Circus ou peut-être vous avez d'autres rendez-vous réguliers, je ne sais pas.
Il y a le Circus et puis après il y a d'autres lieux que le Circus, mais c'est vrai que le Circus une fois par mois, donc ça nous permet de faire divers spectacles. D'ailleurs, il y en a un samedi, voilà, j'en profite pour en parler
longtemps. Top promo.
Ah ben, une aventure improvisée, mais voilà. Donc Maxime, après...
Oui, après on a d'autres partenaires aussi qui nous ont rejoints. Il y a la Maison Bohème, qui est à Tyros, l'Embuscade à Souston aussi. Donc bon, c'est produit déjà une fois, mais ça va être amené à se reproduire. Il y a quelques communes aussi qui nous font confiance. La Benne, on y s'y produit assez régulièrement, peut-être une fois tous les deux ans.
Tos aussi.
Il y a Tos quasiment une fois par an aussi. Mmh. Et on a un événement. Alors il y a eu la deuxième édition cette année. Et je pense et j'espère que ça va être amené à perdurer, qui est donc au casino de Cabreton, dans la salle du phare, la grande salle où on joue donc une fois par an.
D'accord.
Gros, c'est notre gros événement de l'année, puisque c'est une grosse salle. Et on se donne les moyens d'en faire un spectacle à la fois inoubliable pour les joueurs et puis pour le public surtout.
C'est l'événement.
Oui. Alors pour avoir, j'ai déjà interviewé les Qu'est-ce qu'on fait à Dax, vos collègues, hein, on va pas dire concurrents, hein, collègues bien sûr. Mais par contre, on avait parlé, c'était un peu étonnant cette notion aussi de match, Hein, de qu'est-ce que, en quoi ça consiste un match de coup d'improvisation? Est-ce qu'il y a vraiment une notion de compétition ou c'est plutôt de l'émulation?
Alors, ceux qui n'ont jamais vu de match d'improvisation, je les invite vraiment à découvrir ce que c'est, parce que en termes de décorum, mes acolytes en parleront, c'est incroyable. C'est incroyable parce qu'il y a vraiment un effet visuel et un décorum de match.
D'accord.
Je rebondis, effectivement. En fait, ça existe depuis longtemps, je vais dire les années 80 pour ne pas donner une date précise.
70.
Années 70.
Soyons fous.
Ça a été inventé parce que le théâtre seul avait une certaine image et attirait un certain public, et le sport, un autre public.
Oui.
Du coup, les deux ont été liés pour faire un peu plus événement.
Donc, par rapport au baseball, je m'en...
c'est le hockey comme
l'univers. Voilà,
l'univers de hockey avec une patinoire.
C'est ça, voilà.
Donc c'est parti de ce postulat-là, c'est on va faire venir bien plus de gens différents. Voilà, on va rendre le théâtre un peu plus populaire, théâtre d'improvisation. Donc voilà, donc il y a des cartons de vote, un arbitre, tout un décorum et plusieurs styles de scénettes qui sont proposés en compétition ou ensemble pour voilà. Faire un beau spectacle pour le public.
Oui, c'est sûr que là, ça donne un attrait super, supplémentaire au public, là, parce qu'il y a le côté un peu compète, même s'il y a une forme d'humour au second degré aussi dans cette compétition.
L'humour au second degré, c'est qu'on joue une compétition.
C'est ça.
On la joue, on joue la comédie que c'est une compétition.
Voilà, c'est ça.
On veut gagner, quoi.
Mais, voilà, mais au final, ce n'est... entre les comédiens, ce n'est pas une compétition, c'est un jeu ensemble, c'est un spectacle ensemble avec des codes sportifs, des codes de match, des codes de compétition.
Alors aussi, il y a un participant important, on en a parlé plusieurs fois, c'est le public. En fait, vous avez des formules où bien souvent le public, il a son mot à dire, il participe, il donne le noyau, la graine qui va vous servir à faire quelque chose.
Oui, donc comment il sait que c'est improvisé?
Voilà, c'est une preuve. Voilà, déjà. Ça, c'est comme un spectacle de magie ou d'hypnotisme, il faut trouver quelqu'un dans le public.
On a ce syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire qu'on veut toujours prouver que c'est bien improvisé. On pourrait tout à fait faire des spectacles complètement improvisés, de toute façon, on ne fait que ça, sans rien demander au public, juste le public regarde. Mais on a ce syndrome de l'imposteur, on veut prouver que c'est vraiment improvisé.
Ouais, bah après, le public, il doit en sortir aussi encore plus content à la fin, parce qu'il a bien senti qu'il avait participé, qu'il n'était pas juste dans une position passive de public, justement, mais qu'il a été un peu une certaine complicité avec vous à un moment donné. Ça, c'est quand même un effet qui se coule, un petit plus.
Le meilleur retour du public, enfin, je parle encore une fois à titre perso, et pour moi, c'est le meilleur compliment, c'est quand des publics sont sceptiques sur le fait que ce qu'on vient de faire. Je parle en termes de format long, pas sur des improvisations courtes, puisqu'il y a différents types de formats, mais sur une histoire improvisée qui peut durer une heure à une heure et quart. Le retour du public sceptique en disant, je pense qu'il y avait quand même une partie qui était écrite ou préparée.
Oui.
Ça, pour moi, c'est le meilleur compliment, parce que je vais pas, j'ai pas envie forcément de débattre sur son ressenti. Mais je me dis, si lui, il a perçu que les choses étaient tellement belles et fluides et bien construites, qu'il en a l'impression qu'on n'a pas pu faire ça de manière improvisée.
Objectif atteint.
Pour nous, c'est que du plaisir, et on remercie les coachs pour ça. Merci Maxime, tu es là, je te le dis.
Voilà, je vais sortons les mouchoirs. Ouais, alors c'est le moment de faire notre dernière pause, du coup on a le temps de s'essuyer les yeux, on se retrouve tout de suite après.
Snip.
Et voilà, c'était le petit Michael qui nous a quittés malheureusement. Et on retrouve nos amis de Solicat. Avant qu'on se quitte, comme je disais hors antenne, c'est quoi les news? Qu'est-ce qui nous attend? Parce que bon, maintenant les gens forcément ils vont vouloir venir vous voir. Donc,
on espère.
Pas mal de news, notamment ce week-end, il y a un stage découverte pour ceux qui veulent du coup tester suite à ces petites informations sur ce qu'était le théâtre d'improvisation. Donc c'est ouvert à tous à partir de 16 ans et ça sera donc samedi à Cap-Breton de 10h à 13h. On peut retrouver le lien de réservation sur notre événement Facebook. Nous avons également un spectacle le samedi soir, une aventure dont vous êtes le héros.
Ah oui.
Voilà. Donc, ambiance Indiana Jones, mais ça ne sera peut-être pas cette ambiance-là, puisqu'on improvisera aussi sur place.
Mais oui.
Donc, ça sera au Circus, samedi, donc à 20h30. Et il y a aussi un stage family, parce que oui, il y a aussi des stages family. Un adulte et un enfant entre 6 et 11 ans. Donc, ça peut être l'enfant du voisin, si on n'a pas d'enfant.
Oui.
C'est aussi OK. Et donc, ça sera du 10h, midi 30, dimanche 15 juin. Et pareil, il y a le lien pour réserver sur... l'événement Facebook.
D'accord. Et donc, on parlait aussi hors antenne. Vous avez différents formats, en fait. On a parlé des formats de représentation ou de prestations. C'est lesquels ? Il y a des courts, il y a du long, il y a du...
Alors, il y a deux, on va dire, deux grands types de spectacles d'improvisation. Voilà. On va dire les improvisations, le format court, mm-hmm. dit court. Là-dedans, on va retrouver le match, dont on a déjà parlé.
Voilà, ouais.
Et puis, le cabaret d'impro, qui... un peu la même chose, sauf qu'il n'y a qu'une seule équipe, il n'y a pas le côté compétition.
Mmh.
Donc ça, c'est le format court, certainement l'un des formats les plus difficiles, le match surtout.
Ouais.
Malgré ce qu'on pourrait en croire, c'est ouais. Certainement le format le plus difficile. Mmh. Et puis, il y a tout ce qu'on va appeler l'improvisation longue. Alors là, il existe plein de formats, il en existera encore plus, et il y a des formats qui ont existé, qui n'existent plus.
Mmh.
Là, grosso modo, l'idée, c'est que c'est une seule et même improvisation qui va durer peut-être une heure et quart, une heure et demie.
Mmh.
Quand on dit format, c'est juste que ça reste un spectacle d'improvisation, mais on change un peu les règles du jeu au fur et à mesure, la mise en scène. Voilà, parlons plutôt de différentes mises en scène. Là-dessus, nous, on en propose plusieurs. On propose des crossovers, donc deux histoires qui n'ont rien à voir, qui vont pourtant se rejoindre. Ça, c'est notre format puzzle.
Mmh.
Il y a aussi la série improvisée qui s'appelle Binge Watching, où il y aura plusieurs épisodes au sein du même spectacle, avec des previously entre chaque épisode.
Mmh. L'aventure dont vous êtes le héros qui aura lieu samedi, où le public va pouvoir choisir au fur et à mesure comment va se dérouler l'histoire.
Mais ça, c'est un concept qui est sympa, parce que moi, j'y ai pensé même en préparant l'émission, en regardant, en penchant sur le problème, en regardant un petit peu des infos. Ça m'a fait penser un petit peu à l'interaction du public, la possibilité des bons vieux livres qu'on a connus, enfin moi que j'ai connu à ma jeunesse, de livres dont vous êtes le héros, où on fait un choix et tac, on part sur une autre direction et on a l'impression que l'histoire se construit au fur et à mesure qu'on la lit. Donc c'est ça, je trouve que c'est vraiment marrant que vous fassiez ça, parce que c'est, moi, ça ressemble vraiment à ce que je ressens de ce que j'en ai appris.
Ouais, c'est l'idée.
Connaissant les passions de Maxime, je pense qu'on est,
on
est très proche.
Un petit rôliste.
Oui.
Oui.
Ah, ça fait. Oui.
Étant moi-même un très vieux rôliste, je connais bien.
C'est un mais elle est où la barbe alors ?
Comme les cheveux. Ah. Allez, en deuil. Voilà, c'est comme
si
ça.
Vieux qu'elle est partie.
Ouais, c'est ça. C'est plus Gandalf. Non, c'est fini ça. C'est fini. Et voilà. Donc c'est ça. Et puis j'imagine que comme du coup il y a cette interaction avec le public, j'imagine que souvent à la fin d'une représentation, il y a des gens qui viennent vous voir. Comment ça se passe, genre oh, c'était super, ou alors j'ai envie d'en être. Est-ce que ça vous arrive, ça, ce phénomène, souvent?
Il y a de tout
comme réaction. Moi, je me rappelle d'une réaction où la personne disait oh, là là, mais moi j'étais stressée pour vous. Elle partageait ce truc du vide avec nous en disant oh, mais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire. Elle me disait j'ai beaucoup aimé, mais à la fois j'avais cette espèce de vide où
trop d'empathie,
qu'est-ce qu'ils vont faire. Oui, trop d'empathie.
Le track pour vous.
Ouais, c'est ça. Et après, il y a d'autres réactions. Il y a aussi des gens qui disent oh, mais comment vous arrivez à mettre toutes ces idées les unes derrière les autres? Comment c'est possible?
Ben, je sais pas.
Beaucoup de remerciements.
Ce ne sont pas des substances illicites, on n'a pas le droit d'en parler, de toute façon.
Non, à partir du moment où nous, on prend du plaisir et le public le perçoit, il le sent. Nous, on s'amuse sur scène, on se fait confiance.
Oui.
Il y a, lorsqu'on joue uniquement entre Solicat, hors match avec d'autres personnes, il y a une connexion, ce dont on parlait Anne-Lucie tout à l'heure, cette connexion, elle est hyper importante. C'est pour ça qu'il y a des événements internes où on se voit, où on fait connaissance, où on tisse des liens. Et quand on se retrouve sur scène, il y a une fluidité, c'est quelque chose de très naturel. Mmh. Et on s'amuse sur scène. Il peut arriver des fois que ça ne réussisse pas comme on avait envie. Mais en tout cas, on a pris du plaisir, le public le perçoit. Et il nous remercie parce qu'il a passé un bon moment.
Mmh.
Il a ri, y compris sur des ratés.
Et j'ajoute, ce qui est beau, c'est quand on se rate, entre guillemets, que le public le voit, qu'on arrive et qu'on ne pensait pas du tout que le copain allait dire ça.
Mmh.
Ces moments de ratage, on montre au public qu'on va se rattraper et on autorise cette mécanique-là.
Mmh.
Et du coup, c'est très beau parce qu'on admet l'erreur. Et du coup, je crois que c'est un truc qui détend.
Mmh.
Et c'est ça qui fait rire aussi.
Ah oui, oui, bien sûr. Oui. Oui. Ils se moquent de vous, ils sont trop méchants. Donc, l'agenda, on l'a fait. Donc, vous êtes combien de membres, hein? Alors, est-ce que vous avez une jauge? Parce que moi, j'imagine qu'il y a des gens qui doivent vous solliciter. Vous cherchez peut-être des nouvelles têtes, des nouvelles voix.
Alors, c'est fort possible pour l'an prochain, on puisse ouvrir des inscriptions. On en discutera lors de notre assemblée générale, puisqu'on est une asso donc en juillet.
Il en faut une, oui.
Et donc c'est possible qu'il y ait des places pour les ateliers hebdomadaires, il y aura des places pour les ateliers mensuels, il y aura des places également, oui, pour les ados, puisqu'on a également des ateliers pour les ados à partir du CM2 6e.
Mm-hmm.
jusqu'à la troisième. Oui. Donc il y aura de quoi s'inscrire. Et puis on gardera aussi les stages découvertes pour des personnes qui veulent juste s'initier une fois sur un stage de 3 heures dès la rentrée.
Alors je pense aux ados, parce que j'en ai déjà vu, ça m'est arrivé il y a longtemps, mais il doit falloir les canaliser, non ? Parce que il y a une tendance des fois à une montée d'adrénaline de niveau, d'excitation dans l'interprétation, où des fois ça déborde par rapport aux adultes souvent.
Les ados sont fascinants.
Ouais.
Moi j'ai ma fille qui en a fait. Qui en a fait une saison, parce qu'elle a aussi un petit peu comme moi cette espèce de créativité et de vouloir systématiquement créer des univers. Mmh. Et ils sont fascinants, et donc ils se situent dans la zone dont on parlait tout à l'heure, entre la cour de récré et le monde adulte. Mmh. Ils ont encore cet univers où, ben, même sur scène, ils n'ont pas ce décalage ou ce stress qui va les bloquer. Ils m'ont fasciné, on avait fait un spectacle, on avait joué avec eux, on les avait accompagnés, mais je pense qu'ils n'avaient pas forcément besoin de nous et ils y arrivent, ma foi, très bien. Et c'est Émilie qui fait partie de l'association, qui est coach pour les ados.
Et d'accord.
Elle fait un gros, gros, gros travail.
Mmh. Très bien. Ben, vous savez quoi ? C'est le moment de nous séparer. Non, déjà, non. C'est d'aller tellement vite. Tellement vite. On n'a même pas eu le temps d'improviser.
Ben oui, Gandalf.
Quel dommage. Quel dommage. Ben écoutez, merci beaucoup d'être venu. Nous avons parlé de tout ça, parce que c'est intéressant.
Merci.
Merci, Jean-Philippe. J'avoue que ça donne un petit peu envie d'aller vous voir. J'espère que vous allez voir du monde.
Eh bien. Mais oui, mais franchement, pour vivre une aventure, ça serait quand même super.
Voilà, parce qu'une aventure tout seul, c'est la
loose. Une aventure tout seul, on ne voit pas de film avec un aventurier seul.
Non.
Seul au monde ?
C'est plus de la...
Seul au monde, un petit peu.
Monde, ouais, oui,
non, il y a un ballon.
C'est post-apo.
Il y a un ballon.
Wilson, sacré Wilson.
Mais bon, de toute façon, qu'il y ait 5 personnes ou 200 dans le public, on donnera toute notre énergie, de toute façon, dans tous les cas.
Très bien. Ben, merci beaucoup d'être venu. Merci, au revoir.
Merci, Jean-Philippe.